pas si proche, Pierre-Louis Chevalier. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, David Comabella. On va, David...
Bonjour à tous.
On va aujourd'hui parler des gens du voyage, des Roms, hein, avec toi.
Oui.
Parce que tu es bien placé, tu appartiens à la communauté.
Oui, gitane. Je suis issu de la communauté gitane, plus précisément à Figueroles, Gély.
Voilà. Alors, d'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de te voir. Ça fait quelques années qu'on se connaît. Et dans les 40 années, plus de 40 années pendant lesquelles j'étais enseignant, les deux années où on a travaillé ensemble, c'était déjà il y a 13 ans. Ce sont les années certainement les plus difficiles. C'était un travail un peu sans filet, et ce travail dans la cité Gély, hein, n'aurait pas été possible si tu n'avais pas été là. Et je crois que cette expérience, pour moi, c'est une des plus difficiles, mais certainement une des plus exaltantes de ma vie d'enseignant, de ma carrière d'enseignant. Donc c'est avec beaucoup de que je te retrouve, bon, c'est jamais perdu de vue. Et cette estime, eh bien, il m'apportait de la dire.
Si gentil.
Voilà. Et aujourd'hui, je crois que chacun dans la ville rencontre au feu rouge, dans le tram, dans les rues, des gens qui sont là. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Où vivent-ils? Combien sont-ils? Depuis combien de temps sont-ils là? Vont-ils rester? Que cherchent-ils? À Montpellier, comme à Lyon, à Grenoble, à Saint-Étienne ou à Paris, on observe depuis 2007, date de l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans l'Union européenne, des phénomènes d'immigration visibles des populations les plus défavorisées de ces pays, en l'occurrence les Roms, originaires pour la plupart de Transylvanie, du sud de la Roumanie. Ils ont décidé de quitter leur pays pour s'installer à Montpellier, espérant trouver des conditions de vie meilleures que celles qu'ils avaient. Certaines familles sont installées depuis 4 ans. Si l'on peut parler d'installation, maisons abandonnées, terrains vagues, baraques en bois, des vieilles caravanes de récupération, on les voit, Odysseum, Bordulaise, les Sabines, Plan des Quatre Seigneurs, Euromédecine, personne n'a l'eau courante, l'électricité est récupérée par des branchements aléatoires. Il y avait déjà eu des expulsions de certains terrains et des départs volontaires en 2007. D'autres expulsions sont annoncées pour les jours prochains. Quel est donc l'intérêt pour eux de quitter leur pays et d'émigrer vers la France pour vivre dans des conditions aussi précaires? Eux seuls pourraient y répondre. Et aujourd'hui, bon, tu vas essayer de nous aider à voir clair un peu dans la présence de cette population et sa stigmatisation. Alors d'abord, David, j'aimerais quand même... J'ai pensé te présenter, mais je pense que tu peux te présenter rapidement.
Je vais dire
un ou deux mots.
Donc, je travaille depuis 15 ans sur le quartier Gély-Figueroles. Je suis issu de la communauté gitane, mais je suis plus de la paillade, en fait. Et j'ai ma femme qui est de la Grappe, j'ai mes oncles qui sont à Montébérou. Enfin, je viens de citer plusieurs quartiers de Montpellier où il y a une forte population gitane sur ces quartiers. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, j'avais envie de te dire, il existe la loi Besson par rapport à justement les gens du voyage. C'est une loi qui existe déjà depuis pas mal de temps. Toute ville de plus de 5000 habitants doit avoir une zone itinérante aux gens du voyage. C'est une loi qui n'est pas appliquée. Et elle a été
précise, David, que la loi Besson n'a rien à voir avec le Besson actuel. Hein, c'est un Besson qui était ministre socialiste à l'époque de Mitterrand.
Tout à fait. Tout à fait. Mais ce que je peux te dire, c'est qu'actuellement, la loi n'est pas appliquée. C'est-à-dire que toutes les zones itinérantes aux gens du voyage ne sont pas créées. Et malheureusement, quand on en crée, on les crée bien souvent à côté des décharges publiques ou alors à côté des voies de chemin de fer. Enfin, c'est vraiment pas très bien conçue, quoi. Et malheureusement, on n'arrive pas à vivre libre, alors que la liberté, ça, c'est un principe de la démocratie, quoi. Moi, ça me rend vraiment malheureux, parce que là, on parle plus de ceux de l'Est, quoi. Mais ce que je peux dire, c'est que leurs enfants ont aussi besoin d'apprendre que les autres. Et quand je vois aussi l'égalité des chances scolaires, par exemple, c'est malheureux que ces enfants-là ne puissent pas apprendre à lire, à écrire, ou au moins puissent essayer de dépasser un petit peu le petit monde auquel où ils appartiennent, parce que même déjà dans leur pays d'origine, il y a pas mal de problèmes. Il faut savoir que par exemple les Roumains, quand ils viennent en France, ils n'ont pas le titre d'Européens comme les Bulgares. C'est des gens qui sont apatrides, et justement c'est pour ça qu'ils peuvent venir en France. Et l'intérêt qu'ils ont, c'est que justement dans les statistiques au niveau du gouvernement, on dit qu'on les ramène chez eux, mais finalement en fait ils reviennent aussitôt chez nous, parce qu'ils sont considérés comme apatrides. Ils n'ont pas de pays, et ce n'est pas des citoyens européens. Ça, c'était un peu pour, on va dire, ceux qui sont un peu de l'Est. Mais on peut dire que pour ceux qui sont sédentaires, il y a pas mal de problèmes aussi. Je prends le Languedoc-Roussillon, à Perpignan, à Arles, à Agde, à Béziers, à Montpellier, il y a vraiment de grosses zones où, malheureusement, on a du mal à s'intégrer, et à plus forte raison, je pensais à l'insertion. On a vraiment beaucoup de mal à insérer nos jeunes, et c'est vraiment préjudiciable, parce que si les jeunes ne travaillent pas, bien souvent, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Alors
justement, David, on va peut-être pour les auditeurs qui... Parce que lorsqu'on parle de gens du voyage, Rome, Gitans, il y a souvent une difficulté pour quelqu'un qui n'est pas averti à faire le distinguo. Donc, je
peux faire une petite préhistoire.
Voilà, on avait vu jadis un film de Tony Gatliffe, tu te rappelles, La Chaudrome ?
Tout à fait.
Hein ? Donc, est-ce que tu peux, pour les auditeurs, préciser un peu Rome, Gitan, Tzigane, un petit
ben
peu... Et d'où viennent ces... ils ont une origine commune, d'où viennent ces
ben, je vais prendre par exemple le mot Gitan. Le mot Gitan vient de Eritanos. Qui veut dire égyptien, parce qu'en fait, comme on venait de la province d'Égypte, les gens nous appelaient comme ça. Voilà. Alors, Tzigane, Rome et Gitane sont des mots, on va dire, généralistes, qui englobent toute la population gitane. Il faut savoir qu'au tout début, on vient d'Inde, ça fait 2000 ans. De l'an 0 à l'an 900, il y a eu une diaspora, et ensuite on est parti, on est allé dans tous les pays d'Europe. Mais souvent, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand on passait dans les pays où on était bien souvent mal intégré, où on avait du mal à faire notre place, quoi, on n'avait pas le droit de travailler, par exemple. Il faut savoir que les Gitanes en France n'ont pu travailler qu'à partir de 1920. On n'avait pas le droit d'avoir de contrat de travail. Et malheureusement, dans tous les pays où on passait, on était un peu persécutés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gitanes qui sont restés dans ces pays-là au travers de la diaspora. Par exemple, je prends un exemple, les Romanichels, enfin, ce que vous appelez vous les Roumains, nous on les appelle les Romanichels parce qu'ils viennent de Roumanie. Mais ensuite, on peut parler des Bohémiens qui viennent de Bohême. On peut parler, bien souvent, quand chez nous ici on dit gitane, on pense catalan ou andalou, c'est-à-dire ceux qui viennent plus de Barcelone, ceux qui viennent vraiment du sud de l'Espagne. C'est pareil pour les Sinti qui sont plus du côté italien et allemand. Tous les gens nous ont donné des noms divers et variés, mais c'est les gens qui nous ont donné des noms, quoi. Mais on a différents noms, mais par rapport au lieu d'où on vient, où les gens pensent de là où on devrait venir. Nous, notre pays d'origine, c'est l'Inde au départ, mais dans la diaspora, vous imaginez, on a mis 1500 ans pour arriver en France. On est arrivé à peu près au 15e siècle. Il y a des gitans qui sont en Iran, il y a des gitans qui sont en Turquie, il y a des gitans qui sont en Grèce, il y a des gitans de partout en Europe. On est 12 à 14 millions en Europe. Voilà pour ce petit trait historique.
Tu abordais aussi cette discrimination. Tu évoquais que ces gens rencontrent en Roumanie. Hein
et en Bulgarie.
Et en Bulgarie, des conditions de vie très difficiles. Mais je crois qu'on ne peut pas exclure, tu abordes aussi, tu parlais de la loi Besson, hein, cette discrimination au logement. Sur les gens qui habitent au Bordelaise, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés. Les conditions de vie sont évidemment indignes, hein, de notre constitution, d'une déclaration des droits de l'homme, puisque des enfants non scolarisés, pas le droit donc à l'éducation, le droit aux soins. Et il y a vraiment une carence là, à la fois des services, de tous les services publics, et puis une indifférence de nous, citoyens. Comment tu expliques cette distance?
La peur de l'autre, tout simplement. Les gens de chez, bien souvent, je parlais pour ma communauté, bien souvent, les gens de ma communauté, il s'est passé plein de choses au travers de l'histoire et on a peur un peu de l'étranger. Et l'étranger a aussi peur de nous. Donc, à un moment donné, quand il n'y a pas de dialogue, c'est vraiment problématique et malheureusement, on n'en voit pas la solution. Alors que normalement, je pense que on est français comme tout le monde. Ici et même dans d'autres pays, je pense que les gitans sont des humains et malheureusement, ça passe par la communication et bien souvent, on a du mal à s'entendre avec les gens qui ont bien souvent du pouvoir ou les gens qui ont la loi avec eux et qui sont dans leur pays.
Sur la région, sur Montpellier, tu travailles depuis maintenant une quinzaine d'années.
96.
96. Est-ce que tu perçoit une amélioration chez les populations, dans la scolarisation des enfants?
Oui, dans la scolarité, dans
l'intégration.
Oui. Sur le quartier Gélifigorol, enfin, on a eu quelqu'un qui a été un très très bon interlocuteur, Marx Levita, qui a été précurseur d'un projet dont tu as fait partie, et moi aussi, sur l'école, où on a créé la classe relais, où on a fait un travail auprès de l'école. Et là, actuellement, sur l'école primaire, ça se passe beaucoup, beaucoup mieux. À Saint-Jacques, à Perpignan, je suis allé là-bas l'année dernière, et l'équipe enseignante me disait un peu la même chose. Au niveau des tout-petits, ça marche plutôt bien quand on y met les moyens, quand on y met les gens qu'il faut. Par contre, c'est vrai qu'arrivé à l'adolescence, il y a un autre problème qui est que chez nous, bien souvent, on se marie très jeune et les jeunes ne voient pas forcément l'aboutissement des études. Parce qu'actuellement, même si tu sais lire et écrire, tu n'es pas sûr d'avoir un boulot. Nous, nos vieux, nous ont dit « Allez à l'école, si vous savez lire et écrire, vous aurez du travail. » Ma génération à moi a pu s'apercevoir que ce n'était pas forcément vrai. Et malheureusement, on va dire que il y a certains jeunes qui se sentent pas trop soutenus et accompagnés dans leur démarche pour essayer de s'insérer dans cette vie sociale. Et malheureusement, ces jeunes-là restent bien souvent sur le côté.
Mais tu es venu, David, accompagné de ton fils aîné. Tu as trois garçons. Ton fils aîné qui suit de brillantes études. Il est à la fois à la porte d'une carrière de footballeur, hein, à la fois... un centre de formation. Tu ne t'es pas présenté suffisamment tout à l'heure. Bon, je vais dire, tu fus un grand espoir du football. Tu as été au centre de formation de Troyes. Hein,
de la Fédération française de football.
Hein, de la Fédération, des gardiens de but. Tu as eu une carrière de footballeur professionnel qui fut interrompue parce que...
Parce que me suis marié chez moi.
Il fallait te marier, selon la tradition, tout ça. Et ton fils, aujourd'hui, est en seconde S, hein, c'est ça ?
Il va passer en première S.
Il va passer en première, très bien. Donc, il mène de pair une scolarité et des études. Dans cette, je ne veux pas dire cette exception, mais lorsque tu as fait le choix de, tout en restant dans ta communauté, mais de ne pas être non plus, je dirais, phagocyté.
C'est très difficile. Ben, tu parles de l'émancipation. Il faut beaucoup de temps. Enfin, la chance que j'ai eue, c'est que, je vais reprendre mon histoire. Il y a quelqu'un qui m'a appris petit à écrire et à lire. C'est ce que j'essaie un peu de faire à Figorol. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a sorti de chez moi. Et grâce à ça, j'ai pu justement m'émanciper. J'ai pu donc rendre au centre de formation de l'équipe de France, l'INF Vichy et l'INF La Fontaine. Mais en fait, je suis rentré dans cette école-là parce que mon parrain m'a aidé et soutenu. C'est ce que j'essaie de faire aussi pour mes gamins. Mais on va dire que bien souvent chez nous, c'est que les parents ne sont pas au courant de tout ce qui chez nous. C'est-à-dire qu'ils vont bien souvent leur donner un peu d'argent et leur dire « va t'amuser », mais malheureusement, ils ont du mal à les accompagner et à les fidéliser sur une action notamment sportive ou éducative. C'est justement la grosse carence qu'on a au niveau des pères, bien souvent, dans la communauté, c'est qu'il y en a certains qui commencent à le faire et ça marche plutôt bien. Il y en a quelques-uns là qui sont dans des clubs de football à Montpellier, à Lattes, et ça commence à arriver. Mais c'est vrai que avant, on envoyait peu l'importance. C'est-à-dire que pour moi, c'est simple. Mon père me disait, il faut être sain de corps et d'esprit. Donc, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Mais c'est vrai que je suis sorti de mon milieu. Donc, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avoir un autre discours que celui que mon père avait. Mais pour dépasser mon père, il a fallu que je lutte et qu'on ait beaucoup de discussions avec mon père et que j'arrive à y faire comprendre certaines choses par rapport à l'éducation. Parce que chez nous, quand tu commences à lire et écrire, tu deviens un petit peu étranger à chez nous, puisque tu rentres dans l'autre monde, on va dire. Et c'est assez mal vu dans certaines familles. Ce qui est vraiment dommage, parce que justement, je pense que si les enfants de chez nous font des études, ils pourront revenir que plus fort chez nous et essayer d'aider les autres à s'en sortir. Et je pense que ça commence à venir, mais c'est vrai que c'est long et difficile.
On va faire une petite pause avec Jean Ferrat, Les Derniers de Zigan.
C'en est bien fini, nous ne verrons plus de l'Andalousie les gitans venus. La chemise ouverte sur leur peau brûlée, les roulottes vertes au milieu des blés. Et coquelicots, pavots arrachés, les grands calicots, place du marché. Le ciel se fait lourd, et les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers zigans. Disparu l'enfant, voleur de cerceaux, les chevaux piaffant de tous leurs naseaux. Disparu les ânes avec leurs paniers, les belles gitanes sous les marronniers. En ce temps qui va dévorant, on n'a plus le droit d'être différent. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers zigans. Plus de feu de camp près des HLM, révolu le temps des anciens bohèmes. Fini l'esplanade et les tambourins, les derniers nomades claquent dans leurs mains. Et la liberté, femme de gitan, tombe poignardée sous l'effet du temps. Le ciel se fait lourd, les roses se fanent. Nous vivons le temps des derniers zigans.
David, tu as évoqué Max Levita, et moi aussi je tiens à saluer, je crois que c'est un des rares hommes politiques que j'ai rencontré à Montpellier, que je respecte, et c'est un grand monsieur.
Tout à fait.
Et il y a aussi quelqu'un dont je crois qu'on va saluer, même si aujourd'hui elle est loin, elle est à Lisbonne.
Claire Ozias.
Claire Ozias, voilà, une femme qui t'a légué une part de ses archives, hein, une de mes amies, et elle est à Lisbonne. Elle continue à travailler, elle a travaillé pendant des années, hein, Claire Ozias fait partie sur l'histoire, sur la culture, sur la stigmatisation des Roms, des gens du voyage. Elle a fait un travail, et les auditeurs qui sont intéressés par ce sujet, bon, doivent retrouver. Il y a un livre que tu pourrais conseiller, David ?
Il y en a même plusieurs.
Oui.
Mais il y a Jan Jors qui avait fait Nuit Bleue, qui était un livre d'un petit qui raconte son histoire, en fait. C'est-à-dire qu'il est parti de chez lui, il est allé avec des gitanes et il a demandé l'autorisation à ses parents. Et ensuite, il est parti avec eux pendant plusieurs années. Il a vu la vie que ces gens menaient. Il a écrit un livre par rapport à ça. Ça s'appelle Nuit Bleue de Jan Jors. Ou sinon, il y a pas mal d'ethnologues qui ont fait des livres sur notre histoire aussi.
Patrick Williams. Voilà.
Aussi. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que malheureusement, il y a très très peu de livres sur vraiment notre histoire. Mais
alors justement, il y a peu de livres sur l'histoire. Il y a quelques semaines, nous sommes allés à la demande d'Attaque Gange. Il s'agissait pour toi, hein, tu es venu avec ton papa.
Oui, sûr.
Et pour mener un échange avec des à la suite du film de Tony Gatliff, le film Liberté. Et ce film aborde un épisode souvent oublié, hein, ou occulté, et puis délibérément de l'histoire de France, un épisode très peu glorieux, puisqu'il s'agit de cette
décision du gouvernement français,
du gouvernement d'interner. Français, de ces gendarmes, de cette police, de cette collaboration des autorités, hein, judiciaires, policières, et de cette déportation. Hein, alors,
c'était les préfets qui avaient ça en charge.
De cette déportation de ces gens. Alors,
6500 familles sur 30 cas en France.
Voilà.
Et ce que je pourrais dire, c'est que nous, ici, dans le sud de la France, on a vraiment eu de la chance qu'on n'était pas sous le régime de Himmler. Mais ceux qui étaient dans l'Est, et notamment dans le nord de la France, il y en a certains qui sont partis gazés, qui ont été vraiment dans les chambres à gaz. Nous, ici, en France, il y avait 30 camps, et on était interdits dans ces camps, et bien souvent, on souffrait de violence, et on mourait de faim, et les gens n'arrivaient pas à se laver. Enfin, ça a été vraiment très difficile. Il y a même des gens qui en sont morts aussi dans ces camps-là. Et c'était pourtant en France.
Et le génocide, car il faut parler de génocide, a concerné aussi beaucoup de Roms, de Roumanie. Hein.
Mais même encore dans l'Est, ils sont même encore actuellement persécutés. En Roumanie et en Bulgarie actuellement, le problème est vraiment grave là-bas. Il y en a certains qui se font assassiner. Quoi.
Voilà, mais dans ce film et cette période 39-46...
Je ne sais pas si tu t'en rappelles, Pierre-Louis. Tu te rappelles de Joseph Krapczek qui avait demandé l'asile au Parlement européen, qui sont allés camper pendant des mois et des mois devant le Parlement européen. Parce que, justement, ils avaient... Enfin, alors, je vais te rappeler un petit peu l'histoire. Joseph, c'était un gars qui était à Budapest.
Bucarest, en Roumanie.
Ouais. Et donc, il vivait là-bas et le problème c'est que il y a des néo-nazis qui venaient persécuter dans son camp pas mal de jeunes et etc etc et ça a duré pendant 2 ans.
C'est à quelle époque
ça fait à peu près entre 8 et 10 ans.
D'accord.
Et donc cette persécution a duré pendant 1 an ou 2. Il y a quelques jeunes qui se sont révoltés et qui ont tapé sur ces gens qui venaient dans le camp un peu embêter un peu tout le monde. Et ensuite, Joseph a été obligé de vendre son appartement et de partir parce que ils avaient peur qu'on les tue, quoi. Et j'ai trouvé ça c'est une situation qui est encore actuelle. Enfin bon, là je parle pas de Joseph, mais je sais qu'actuellement en Bulgarie et en Roumanie, il y a pas mal de problèmes.
Oui. Et justement, il y a une chanson de Ferrat qu'on avait passée dans une émission récente, c'était Nuit et brouillard, hein, ce crime, ce génocide des Juifs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de porte-voix de la communauté des gens du voyage, pour faire connaître ce crime aussi qui s'est accompli contre le peuple du voyage.
C'est-à-dire que les Juifs, en fait, ont porté plainte à la cour de La Haye. Nous, malheureusement, on ne l'a pas fait parce qu'on n'était pas coordonnés et fédérés entre nous. C'est-à-dire que le gros souci, ensuite, notre peuple a essayé d'intervenir auprès des offices mondiaux par rapport à ça, et même de porter plainte justement à la cour de La Haye, mais en fait, comme on n'était pas coordonnés et fédérés entre nous, et qu'on n'a pas trop d'avocats et d'intellectuels, on n'a pas pu justement aller plus loin dans ces démarches-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé de faire les démarches, mais ça n'a pas marché. Quoi.
Oui, Et cet holocauste, il doit être inscrit dans la mémoire nationale.
Même ce qui m'étonne, enfin, il y en a quelques-unes, Stella en France, qui disent qu'il y a eu des camps d'internement, par exemple à Rivesaltes, à Arles, et à pas mal d'endroits aussi ailleurs. Il y a quelques stèles qui ont été mises, mais pas pour toutes. Et malheureusement, nos petits à l'école ne savent pas qu'il y a eu des camps d'internement. Et surtout que cette décision-là a été prise par le gouvernement français, quoi.
Mais je pense qu'une des causes de cette douleur, de ce traumatisme, tient à cette mémoire qui a été, qui est latente, et ce non-dit, ce refoulement. Je me souviens d'un jour où il y avait eu, à l'école, c'était à l'école primaire Basile, un gros bruit, et les petits, les plus grands avaient fait sortir les petits, tu t'en souviens?
Oui. Bien souvent, comme tout à l'heure j'ai dit au tout début de l'émission, c'est que bien souvent on a peur de l'étranger. C'est pour ça qu'on reste bien souvent entre nous, chez nous, dans nos quartiers. On reste souvent entre nous parce que justement on a peur de l'étranger par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qui s'est passé ailleurs. C'est-à-dire que bien souvent quand les gens venaient nous rencontrer, c'était bien souvent pour nous faire des misères. Donc c'est pour ça que nos vieux encore disent certaines choses, qu'on ne se mélange pas trop, qu'on passe peur aux effets, que les étrangers restent un petit peu à l'écart, oui, par rapport à chez nous. C'est vrai qu'il y a pas mal de réticences.
Alors il y a des gens aussi auxquels on va adresser un petit salut, c'est, je pense à Lily Baliardo, à Pascal Faure qui a fait un travail depuis des années, un travail de profondeur, qui a su gagner la confiance des femmes
de la cité
Gély, hein, qui a écrit un livre aussi très intéressant. C'était son doctorat sur la population Figueroles-Gély, hein, en montrant cette mixité ethnique, ces origines diverses.
Moi, ce qui me plaît en Pascal Faure, c'est que ça fait déjà un bon nombre d'années qu'elle a travaillé sur ses thèses et tout ça. Ça fait peut-être 20 ans qu'elle côtoie le quartier Gély-Figueroles. Et donc, même sur l'histoire de notre quartier, elle en sait pas mal. Et elle en apprend encore à certains, quoi. Et je trouve ça très intéressant parce que, bien souvent, quand on a une culture orale, il y a certaines choses qui ne restent pas. Alors que Pascal, par l'écrit, il y a certaines choses qu'elle nous a un peu rappelées, quoi. Et c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur.
Oui. Alors, cette année, dans le cadre de du festival, disons, qui a lieu chaque année au Château d'Eau, hein, cette année, le thème, c'est « À la rencontre des Roms, chez nous, hein, ». La route tzigane, exactement. Et j'ai assisté au Château d'Eau au spectacle qui se donne, spectacle déambulatoire, tous les soirs. Je crois qu'il se joue à guichet fermé, mais il faut vraiment tenter votre chance et y aller. Bon, vous trouvez. Et c'est vraiment un très, très beau spectacle parce que pendant 2 heures, il y a une déambulation dans le parc et on voit se conjuguer, on comprend bien, il y a des Indiens, des gens qui viennent avec des danses du Rajasthan.
Un peu comme Tony Gatlib a fait sur le film La Chaudron.
Voilà. Et là, c'est vraiment la première fois que je vois cet ensemble. Ça se termine par, je le disais, la danse catalane.
C'est Viviane.
Non.
C'est espagnol.
Oui. Non,
moi, ce que je peux te dire par rapport à tout ça, c'est que quand on regarde le film de Tony Gatlib, on voit vraiment qu'il y a des gens qui étaient en Inde, qui faisaient de la musique qui était assez intéressante. Mais on prend aussi ceux de Roumanie, c'est exactement pareil. Voilà. On prend les Catalans ici, c'est exactement pareil. D'ailleurs, tu devrais voir actuellement qu'il y a les Gypsy Kings qui jouent un peu de la rumba et de la salsa, qui est sud-américaine. Et il y a aussi Chico Buchikili qui vient de récupérer aussi le groupe Chico et les Gypsy. Et eux sont plus tournés maintenant vers, on va dire, plus la musique de Django Reyna, qui sont vraiment des musiques de chez nous. Mais tu vois bien que le flamenco et la musique de Django Reyna, qui est plus du jazz manouche, est complètement différente. Mais on retrouve quand même un certain dynamisme.
Et justement, à la fin du spectacle, alors le flamenco, tous les musiciens qui ont participé, ils sont une trentaine, se retrouvent sur la même scène. C'est vraiment une... Alors, pour les auditeurs, pour les divergents qui sont intéressés, jeudi 17, justement, au Café de la Diversité au Château d'Eau, à 20h, il y aura une rencontre à la rencontre des Roms chez nous, organisée à la fois par la CIMAD, par Médecins du Monde, la Ligue des Droits de l'Homme, le Secours Catholique, ATD, Carmonde. Et il y aura possibilité d'assister à cet échange, d'apprendre beaucoup, parce que la CIMAD de Béziers, qui travaille avec beaucoup de Bulgares, de Roumains, et puis sera abordé justement ce problème qu'on a évoqué de la présence sur les bords du Lez, de cette population qui est vraiment oubliée. Alors, pour l'agenda aussi, je voulais rappeler, parce que finalement, mercredi 9 à 19h à la salle Pitot, c'est Survie, l'association Survie qui s'occupe spécialement des rapports entre la France et l'Afrique. Il y aura une soirée sur les paradis fiscaux à 19h. Et je crois que c'est intéressant parce que lorsqu'on nous bombarde de crises économiques, là on voit que l'existence des paradis, on voit vraiment l'importance de ces paradis fiscaux qui ont été créés par une volonté politique et qui drainent tout l'argent qui échappe en fait aux retraites.
Par exemple, la Belgique n'est pas un paradis fiscaux, mais quand tu vois qu'il y a pas mal de gens de chez nous qui partent en Belgique parce qu'ils ne payent pas l'impôt sur les grandes fortunes,
voilà.
Eric, c'est très intéressant.
Donc, David, on se retrouvera le 17.
Ça
on dit au revoir pour aujourd'hui aux auditeurs. Merci Élie qui était à la technique. Et merci à toi, David.
Je vous remercie aussi de m'avoir écouté.